Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en cette fin d'après-midi. Bonjour à tous et nous avons plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Nous commencerons par un sommet du football qui tourne au ridicule. La FIFA déplore la suspension de la rencontre Brésil-Argentine pour des raisons sanitaires. Une confusion en bord de terrain diffusée dans le monde entier au désespoir des acteurs d'un match si prometteur et aussi des téléspectateurs. Des bleus lénifiants qui ne gagnent plus, qui enchaînent les matchs nuls et qui inquiètent des champions du monde devenus quelconques. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Comment enrayer la spirale négative? Est-ce que Didier Deschamps trouvera la solution? Eh bien, cette question et bien d'autres, nous allons nous les poser dans Radio Foot International. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Annie, vous avez tout dit, j'ai l'impression.
Je compte sur vous pour donner la réponse. Ah, moi, d'accord. Je pose les questions, c'est mon rôle.
J'ai combien de temps? Une demi-heure?
Non, peut-être moins, mais nous verrons. Ça se négocie, on va dire.
Merci Annie.
Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien?
Bah écoutez, pas forcément que des bonnes nouvelles, mais...
Non, oui, drôle d'actualité dont nous ferons le tour. Nous ferons le tour de la planète, d'ailleurs, grâce à cela. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien. Bon, la dynamique anglaise est meilleure que que celle des Français. Mais
il
n'a
pas gagné l'euro, rassurez-moi quand même.
Presque.
David Finzel m'a aidé à préparer l'émission, comme chaque jour. Laurent Salerno, comme chaque jour, est à la réalisation de l'émission. Nous voulions commencer cette émission sur Radio Foot au Brésil, mais d'abord une pensée émue pour l'homme de Rio.
Jean-Paul Belmondo est aussi sollicité comme un joueur de football que comme vedette du cinéma.
Oui.
Ça vous séduit?
Oui, beaucoup. C'est formidable de jouer dans une ambiance pareille.
Comment en êtes-vous venu à pratiquer le football?
C'est-à-dire que je jouais dans les scolaires il y a longtemps. Mais je jouais à l'avant, je ne jouais pas dans les vies.
Quelles sont les satisfactions que vous en retirez?
Marche plus, Tommy.
Quelles sont les satisfactions que vous en retirez?
La détente surtout.
Deux fois pour
ça, je pense plus aux affaires, rien, c'est formidable.
Ça vous sert parfois dans le contexte de votre métier?
Allez,
allons-y maintenant.
Il nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 88 ans, l'homme de Rio, Jean-Paul Belmondo, l'acteur si populaire, si connu dans le monde entier. Une vedette de cinéma inoubliable, Bébel, qui commença avec la nouvelle vague et qui a surfé pendant 60 ans sur une carrière incroyable. 80 films, alors certains titres qu'on n'oublie pas comme À bout de souffle, comme Pierrot le fou, mais il y a aussi Le Magnifique, L'Animal, Le Guignolo, L'As des As, un sacré personnage qui en plus aimait le sport, Dominique.
Oui, il est à la création du Paris Saint-Germain. Il est au début
avec Borelli.
Avec Borelli, il fait partie des membres fondateurs. Il a été un gardien de but en football. Il a aussi fait de la boxe.
On l'entend hein, quand il parle, parce qu'à l'époque, les matchs avec les vedettes, on va dire, hein, quand c'était un peu le variety club d'avant, eh bien, c'était aussi avec des comédiens et des acteurs de cinéma.
Je pense que les gens ont pu le découvrir aussi à la télé en train de regarder Roland Garros avec Charlie Gérard dans une loge. Voilà, il est derrière les combats de boxe aussi. Non, c'était un fou de sport. Et puis on le voit à sa carrure.
Il n'était pas toujours doublé dans ses films.
Il ne supportait pas qu'on le double. C'était un acteur cascadeur. D'ailleurs, ça lui a joué des tours, puisque sur un film Hold Up, il s'est fait mal aux vertèbres. Il a failli y passer. Donc, voilà quoi. Donc, c'était si on se souvient de la maison de la radio ou le film Peur sur la ville, les cascades en hélicoptère au-dessus de la Seine, ou alors dans le métro aérien, là, tout ça c'est lui quoi. Ouais. C'est vraiment lui avec une prise de risque insensée quoi. Aujourd'hui je pense que les producteurs refuseraient parce que ça coûterait très cher d'assurer un Jean-Paul Belmondo aujourd'hui. Donc il y a des cascadeurs pour ça. Non mais c'était un vrai sportif.
Ouais, c'était. Et d'ailleurs il l'a dit hein, et dans les colonnes du Parisien en plus un jour il avait dit le sport m'a sauvé. Nabil, Jean-Paul Belmondo, c'était un personnage emblématique.
Pour moi, c'est un mythe quoi, un monstre du cinéma français. Bon, c'est sûr que j'ai moins de références que Dominique à son sujet. J'ai vu quelques films et des films peut-être plus récents. J'ai découvert un peu aussi.
Il y a Borsalino aussi, non?
Sa filmographie.
À Marseille.
Sa filmographie. Sa filmographie avec des films méconnus. Mais bon, pour moi, c'est un personnage en fait intemporel en fait. C'est comme Michael Jackson, Madonna, enfin etc. C'est des personnes qui traversent qui traversent les époques et qui sont toujours présents.
Oui, parce que lui, c'était dans les années 50 hein, qu'avait commencé la carrière.
J'ai plus l'image d'un boxeur, par contre. C'est vrai que je découvre avec intérêt.
Sa passion, c'était Marcel Cerdan. Il dit qu'il lisait tout à l'époque. Mmh. C'était évidemment le boxeur français emblématique de ce temps-là. Bruno ?
Bah, tout a été dit, c'est un monstre évidemment du cinéma français, notamment c'est face à face avec Alain Delon, c'était quand même les deux stars à l'époque. Et puis, comme l'a dit Dominique, rappeler pour moi ses meilleurs films, c'est les films du début, quand il appartient à la Nouvelle Vague, il y a Bout de Souffle qui est absolument magnifique. Et ceux qui ne connaissent pas, allez voir ces films-là pour voir qui était le vrai Belmondo, le très très bon Belmondo.
Oui, il faut aller dans les cinémathèques, il y aura de quoi faire. Le Brésil, donc il avait joué aussi hein, L'Homme de Rio, où on le voit là aussi faire se pendre à ce fameux téléphérique qui monte au pain de sucre là et faire des choses, des cascades.
Inspiré après les OSS 117 pour la jeune génération avec Jean Dujardin,
ouais.
Dans la même veine. Qui se dit un peu l'héritier. Bon, il y a encore un peu de boulot, mais.
Rio ne répond plus. Le Brésil, eh bien, il était avec Jean-Paul Belmondo, mais le voilà aussi. Le Brésil est moins gai, on va dire.
Comme ça quand même. Alors j'espère que c'est pas lié à l'enquête qui a eu lieu au préalable de cette rencontre. Les Argentins rentrent au vestiaire. Ils veulent pas jouer. C'est soit on joue nous tous, soit on joue pas. Ah c'est ça ? C'est pour ça.
Oui, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Ça y est, le match est suspendu.
C'est une décision définitive.
Sincèrement, l'impression.
Une immense frustration hier soir pour tous ceux qui espéraient assister à un grand match, une rencontre Brésil-Argentine en direct, à un horaire noble. Dans notre fuseau horaire, c'est-à-dire un côté européen et en Afrique. C'est si rare, hein, d'habitude, il faut se lever pour voir le match, hein, les Copa América.
2h30, 3h30, 3h du matin en France.
Des fois, 1h.
Minuit quand vous avez gagné au loto.
Des fois, quand ils pensent un peu à l'Europe, ils avancent les matchs. Mais bon, peut-être d'ailleurs, ça se jouera. Le match retour, mais là, c'est en Argentine, est prévu le 16 novembre prochain, mais ce ne sera déjà plus le contexte, cette revanche qu'on attendait de la finale de la Copa América. Bref. La fête attendue a été gâchée. La partie a duré en fait 7 minutes. Les choses devenaient même sérieuses. On a vu quelques trucs un peu des coups de pied ou
un
des
peu de virilité quoi.
Oui, voilà, exactement.
Viril mais pas correct.
Voilà. Ouais, un peu viril. Et puis deux hommes sont entrés sur la pelouse et là on s'est demandé ce qui se passait et là tout a commencé à dégénérer. Envahissement du terrain, esprit échauffé des Argentins qui rentrent au vestiaire. Messi qui réapparaît, ça c'était très drôle, avec son chasuble photographe. Donc
non,
ça,
c'est irréel.
C'était drôle. Et au bout d'une heure, eh bien finalement l'arbitre a suspendu la partie. Au cœur du problème, quatre joueurs argentins qui jouent en Première Ligue, qui jouent en Angleterre, ça n'échappe
pourquoi
à personne.
Pourquoi vous me regardez comme ça,
je vous regarde parce que vous,
je n'y suis pour rien.
Non, vous ne venez pas d'Angleterre d'ailleurs. Ouais. Et ils n'avaient pas déclaré surtout qu'ils venaient d'Angleterre, même si évidemment ils étaient passés par le Venezuela où il y avait eu le premier match. Emmené d'ailleurs, on l'avait signalé par Messi, je crois, hein, en avion privé. Bon, enfin bref, tout le monde se rejette la faute. Les Argentins ont d'ailleurs vite filé après le match. Hein, dans la nuit, ils ont décollé, ils sont rentrés à Ezeiza, à l'aéroport et au centre d'entraînement juste à côté, tous ensemble. Alors je me souviens que Alejandro Valente disait oui, mais les joueurs peuvent être libérés par leur fédération. Et on ironisait un peu parce que les Brésiliens, eux, et d'ailleurs Tite avait fait une mise au point, il avait dit tous les joueurs voulaient venir, mais ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas pu venir. Et là, finalement, il y a eu une rigueur de la loi, mais peut-être aussi que les Argentins se sont cru trop facilement libérés.
Ah bah déjà c'est, on dirait un film Les Pieds Nickelés, quoi. Enfin, à ce niveau de compétition, de prestige d'équipe, voir débouler quelqu'un avec un jean, un t-shirt, on ne sait pas pourquoi.
Et un insigne.
Pendant également. Très longtemps, on ne savait pas ce qui se passait.
Apparemment, c'était un homme de la police fédérale,
un
représentant. Voilà,
c'est pour ça qu'il a pu arriver jusqu'à là aussi.
Mais la police fédérale se promène dans un t-shirt au Brésil.
Au départ, c'est totalement incompréhensible.
Mmh.
Et,
ouais, ça,
et
ouais.
Après, sur les fautifs, il y en a plusieurs évidemment, mais les premiers, je suis désolé, c'est les Argentins. Les joueurs de foot peuvent pas être au-dessus des lois. Quand vous arrivez dans un pays, vous devez déclarer par où vous êtes passé. Ce sont des joueurs de Première Ligue. Alors certains diront oui, mais on sait très bien qu'ils étaient là, donc on aurait pu les contrôler avant. Mais au départ, quand ils arrivent dans le pays, ils doivent déclarer qu'ils sont passés par le Royaume-Uni. Malheureusement, les règles sont strictes. Ça, c'est ni les Argentins qui les ont fait, ni les Anglais. Mais c'est comme ça. Et donc, ils ont menti sur cette déclaration. Donc, pour moi, ce sont les premiers responsables.
Alors, précisons que la loi, quand vous venez depuis la mi-juillet, je crois, quand vous venez du Royaume-Uni, d'une façon générale, et de bien d'autres pays, vous êtes obligé de rester 14 jours.
Une quatorzaine imposée.
En quarantaine. Quelles que soient les responsabilités argentines. Ouais. Pourquoi il faut attendre que 7 minutes se déroulent du match pour que la police ou des autorités sanitaires...
Je suis entièrement d'accord, Dominique.
Alors que la feuille de match, elle est connue, elle est en audiovision.
Ils sont dans le pays depuis 3 jours.
On peut aller les chercher tranquillement une heure avant le match.
Pourquoi il faut attendre... D'accord.
Ça, c'est la première chose.
Je suis entièrement d'accord, Dominique.
Et après, tu dis, les règles, c'est les règles. Pas de la part des Brésiliens, s'il te plaît. Non, mais, c'est un pays qui fait n'importe quoi bien, mais depuis le début de la pandémie.
Mais c'est pas une raison.
C'est bien le Brésil de
Bolsonaro.
C'est pas une raison pour faire n'importe quoi non plus de la part des Argentins.
Non, d'accord.
C'était presque aussi peut-être une manière de se rattraper d'une certaine façon en mondiovision pour
c'est sûr
les autorités brésiliennes.
Les Brésiliens n'ont aucune leçon à donner là-dessus. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, visiblement, c'est que l'agence sanitaire avait déjà pointé, et la police avait déjà pointé les errements de la sélection argentine.
Ouais,
et
donc, ils sont même allés à leur hôtel dans
sur ces déclarations. Ils s'étaient déjà passés visiblement à l'hôtel, ils avaient déjà fait peser une menace en disant « vous ne faites pas jouer ces joueurs ». Ils les alignent quand même. Ils vont quand même s'entraîner. Ils vont quand même au stade.
On le découvre pas.
Donc les Argentins, ils font une double erreur.
À tel point quand même que quand Messi revient sur la pelouse, apparemment, en tout cas c'est la version brésilienne, ils disent bon bah il y a trois joueurs, ces trois joueurs parce qu'il y en avait un sur le banc et trois sur la pelouse, Martinez,
Romero.
Il dit bon bah alors ok on les enlève et on continue le match. Et là la police et l'envisa disent non mais ça se passe pas comme ça quoi. Et du coup vraiment suspendre le match. Nabil.
Bah moi je trouve que la ficelle est trop grosse et qu'il y a de l'instrumentalisation au Mondovision, de la part des Brésiliens.
De la part de tout le monde, pratiquement.
Ouais, les Argentins ne sont pas au-dessus des lois, mais je veux bien l'esprit légaliste. Mais la CONMEBOL et la FIFA avaient demandé des dérogations. Ça existait notamment pour les pays africains, puisqu'il y avait des joueurs qui venaient aussi de Première Ligue et qui ont pu se rendre dans des pays en zone rouge, si je ne dis pas de bêtises.
Non, je ne crois pas, parce que par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais Salah, il n'a pas pu aller jouer en Égypte, qui est sur la liste rouge. Par contre, il est allé jouer au Gabon, qui n'est pas sur la liste rouge.
Oui.
Donc, après, oui, cette histoire de liste rouge.
Bah, oui, mais elle existe malheureusement.
Mais bon, enfin, après, bon, ok, d'accord sur le côté légaliste.
Non, mais le côté.
Mais le côté d'arrêter.
Tout le monde attend le match.
Laisser. Alors, pourquoi tu laisses démarrer le match?
Mais oui.
Non, mais tout bêtement. Donc, s'il n'y a pas une volonté quand même d'instrumentaliser.
Non, mais Anamil, visiblement parce que jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont demandé à la sélection argentine, à la fédération argentine, l'Argentine n'a pas obtempéré.
On laisse pas commencer le match. Ils étaient dans le vestiaire.
Donc peut-être peut-être qu'ils ont estimé que la seule manière d'imposer leur loi, c'était d'aller sur le terrain. C'est totalement grotesque.
Ta loi, tu les laisses pas rentrer dans le pays.
Alors évidemment,
c'est terminé.
Tout le monde se refile le bébé parce que la confédération brésilienne qui organise au nom de la CONMEBOL dit ah ben nous on nous avait assuré à la CONMEBOL qu'il y avait eu un accord entre 10 pays et la CONMEBOL pour que toutes ces normes sanitaires ne s'appliquent pas. En plus à des joueurs ça on le sait par contre qui sont testés sans arrêt tous les deux jours, tous les trois jours, surtout dans un
non mais il y avait pas une volonté de trouver une solution.
Voilà,
c'est tout. Voilà.
Et la CONMEBOL elle évidemment. Elle a dit, c'est l'arbitre qui a suspendu la partie, mais elle a refilé le bébé à la FIFA, bien sûr.
Parce que même pour un devoir d'exemplarité, Bruno, ça sert à qui tout ça? Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'on va plus se vacciner? Est-ce qu'on va plus se tester? Est-ce que les footballeurs vont changer?
Mais ça sert à Bolsonaro?
Ça sert à rien, cet épisode. Il sert à rien si ce n'est à ridiculiser tout le monde, en fait, le Brésil, l'Argentine, la CONMEBOL, la FIFA. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a rien.
Non, mais du coup, Dominique, on fait quoi? On fait plus de déclarations quand on rentre dans un pays, on demande plus aux gens qui sont passés par
là. T'as fait l'euro comme moi. J'ai dû donner un nombre de documents, faire un nombre de tests pour passer les frontières. Comment se fait-il que ces quatre joueurs-là, ils aient pu arriver dans le pays? Ne serait-ce que déjà ça, s'il y a un problème.
C'est invraisemblable.
Déjà ça, c'est pas normal.
Donc
c'est le pays qui les a laissés rentrer, qui doit se poser des questions. On va pas en tout bout de chaîne arrêter un match au bout de 7 minutes. Pourquoi 7? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas une 30 minutes? Pourquoi pas la 92e?
FIFA.
C'est au début qu'il faut prendre le problème.
Alors la FIFA déplore, entre guillemets, c'est son mot, l'issue de cette soirée en disant qu'elle se prononcera, alors il y a enquête évidemment, en temps voulu. Est-ce que vous imaginez une décision, et j'oserais dire courageuse, de la part de la FIFA, Bruno? Non mais par exemple, parce que une décision, vous-même vous dites, c'est quand même au départ la faute des Argentins, donc ça sera prendre une décision contre la FA et contre Messi.
Annie, j'ai vu ces qualifications de la Coupe du Monde, elles sont placées sous l'égide de la FIFA. J'ai vu un Hongrie-Angleterre scandaleux. Je viens de voir un Brésil-Argentine scandaleux. Il faut que la FIFA, à un moment donné, elle fasse quelque chose, elle prenne des décisions.
Vous savez ce qu'elle a dit au sujet de Hongrie-Angleterre?
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Bah, elle a dit que les sanctions, c'était l'UEFA, donc ouais. C'est dans le cadre de matchs de l'UEFA, mais là, c'est la FIFA.
C'est des qualifications FIFA, là, pour la Coupe.
Justement, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont deux ou trois matchs de suspension. Les Hongrois, ils ont dit, mais ça, on l'appliquera quand ça sera des matchs de UEFA, et je crois que le premier, c'est en octobre 2022.
C'est grotesque, quand même.
Tout est grotesque.
C'est hypocrite.
Voilà. Bon, c'est le carton rouge de
vous avez dit FIFA et courage. Ben, on a vu le courage de la FIFA sur cet épisode hongrois. C'est totalement ridicule.
Bon, donc il ne faut pas s'attendre à une décision courageuse. Mais non. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont annuler le match? Parce que le rejouer, on sait que le calendrier international, en plus, c'est un truc de dingue en ce moment.
Surtout qu'il y avait déjà une plage en mars qui avait été reportée.
Une plage?
Une séquence de qualification. Donc, au bout d'un moment, on peut pas.
Exactement. Là, en plus, ils en avaient trois. On connaît le problème. Ça causait des problèmes à toutes les fédérations européennes de récupérer leurs joueurs. Bon.
Alors, ça tombe bien. On sait qu'à la fin, c'est le Brésil et l'Argentine qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Il n'y aura pas de suspense. Mais pour un problème d'équité, le Venezuela, la Bolivie, le Pérou peuvent dire attendez, on n'a pas joué le même nombre de matchs.
Exactement.
On a l'impression que toutes les mauvaises volontés ont quand même conspiré dans cette histoire. Personne n'est nickel dans cette affaire. Mais moi, je pense quand même que le Brésil reçoit des Argentins. La Confédération brésilienne est au courant. En amont, ils auraient dû, en discutant, en négociant, essayer d'éviter ce qu'on a vécu.
Il y a un sénateur brésilien qui demande une enquête parce qu'il dit mais d'où vient cette rumeur que le ministère de la Santé ou cette Anvisa ou quelqu'un avait dit oui, c'est bon. Parce que c'est la rumeur, évidemment. Ouais. Non, mais de toute façon, nous avions dit que c'était bon.
On s'arrange entre nous, c'est bon.
Et ça, le Jeitinho au Brésil, on connaît. Mais Nabil, par contre, il y avait quelque chose de sympa. C'était ces joueurs, finalement, et des deux équipes qui, on connaît l'adversité sur le terrain quand le ballon roule. Mais sinon, là, on a vu des joueurs qui jouent dans les grands clubs.
Entre Neymar et Messi. Un fou rire avec deux joueurs exactement sur la même posture, la tête penchée en avant, qui mettent la main dans la bouche.
La photo fait le tour.
Non, mais eux, ils sont pris en
Je sais pas qui a fait rire l'autre, mais bon, j'imagine que c'est plutôt Neymar qui a fait une blague. Ils n'arrivent pas à se contenir. Ouais. Bon, rien que pour cette image, ça valait le coup presque. Ouais.
C'est presque un manque de respect pour eux. Je trouve qu'ils sont là pour faire leur métier.
Il n'y avait que des stars sur cette pelouse en plus. Et ils étaient tous là, même Dani Alves qui était là, qui essayait d'arranger, Marquinhos.
Non, mais c'est une aberration administrative sans nom.
C'est un désespoir pour tous ceux qui étaient là, qui se disaient oh, tiens, on va passer un bon moment. Bref. Il y a des matchs éliminatoires reportés ailleurs, et vous allez l'entendre, mais c'est pour des raisons bien différentes. Drôle de veille de match pour les sélections guinéennes et marocaines qui avaient rendez-vous sur la pelouse du stade de Nongo hier. Les militaires se sont répandus dans Conakry, les militaires de Guinée. Le président guinéen a été renversé et les frontières étaient fermées jusqu'à la mi-journée. Le match reporté sur décision de la CAF et de la FIFA, alors que la délégation marocaine et les arbitres désignés ont pu quitter la capitale hier en fin de soirée. Drôle de stress pour les Marocains. Oui. Nabil, vous discutiez avec eux, ils étaient un peu inquiets.
Bah oui, puisqu'en plus leur hôtel se situait non loin du palais présidentiel, donc ils étaient un peu
dans la zone plutôt.
Au niveau des nuisances sonores, c'était un peu le feu d'artifice malheureusement autour d'eux.
Ce qu'on entendait.
Voilà, donc il y a eu de l'inquiétude, une certaine anxiété également qui est absolument légitime. Très rapidement, ils ont compris qu'ils pouvaient pas aller s'entraîner. Et puis, ensuite, c'est l'attente qui a démarré, déjà de comprendre ce qui se passait, quelle était la situation dans le pays, puisque on l'a tous découvert au fur et à mesure. Ils n'étaient pas non plus eux en dehors de ça. Et puis, très rapidement, on sait que les autorités marocaines ont tout fait pour rapatrier la délégation marocaine.
Ils sont partis dans la soirée.
Dans la soirée, moi, j'en avais un ou deux. Ils me disaient on attend les instructions. Ils avaient aussi ordre, même si Vaïd l'a fait, de pas communiquer également, pas dire où ils étaient. Tout bêtement, parce qu'on sait pas situation
notamment
comme on dit
les réseaux sociaux et tout ça.
Ouais, la situation elle est volatile comme on dit, et puis finalement en soirée ils ont pu rentrer et rejoindre le Maroc et maintenant on attend de savoir le match. La FIFA a acté le report du match. On aurait pu penser à un moment pour rester sur le terrain du football, parce que l'autre je le maîtrise moins, sauf en écoutant RFI le matin où on est très bien informé, notamment. Les Guinéens eux espéraient un switch, c'est-à-dire que rejoindre très rapidement Marrakech.
Et faire le match aller, finalement.
Faire le match aller au Maroc, à Rabat, à Tanger ou peu importe. Et ensuite, en octobre, recevoir le Maroc en espérant
que la situation se soit apaisée
et normalisée, mais c'est absolument pas le cas puisque le match a été reporté par la FIFA. Et comme le disait tout à l'heure Dominique, il y a des plages qui ont sauté en Amérique du Sud. En Afrique aussi, c'est compliqué de trouver de la place puisque ces éliminatoires Coupe du Monde ont été condensés juste avant la CAN. Donc, à moins de programmer 3 dates sur une date. Et je sais pas trop comment, ça pose aussi des questions.
Ce qui est pas rendre un service, parce qu'on le voit avec cette séquence-là, 3 matchs en 10, 11 jours, c'est affreux, quoi. Il y a pas de beaux matchs, parce que 3 matchs en plus en début de saison.
Eux, ils n'en avaient que 2, je crois, les sélections. C'est deux
matchs, donc ils vont pouvoir en faire peut-être un troisième.
Peut-être
là,
le Maroc
avait battu le Soudan à domicile, devait se déplacer, donc s'est déplacé en Guinée, n'a pas pu jouer son match.
Les clubs vont devenir fous, ils vont libérer des internationaux pour aller faire 3 matchs.
Et là, Naby Keïta, enfin, voilà.
Alors, justement, la fédération guinéenne, et rappelons-le, le Sili est dirigé par Didier Six, tente de s'organiser pour permettre aux internationaux convoqués de rejoindre leur club. Et c'est ce qu'a expliqué d'ailleurs au micro de Tiernoya Diallo, notre correspondant sur place, le secrétaire général de la FEGI Foot, Maurice Akoy Koivogi.
Nous nous en faisons un souci, étant entendu que dans cette situation incertaine, nos joueurs et leurs clubs font le même souci. Nous pensons prendre des bouchées doubles pour que nous puissions avoir avec les autorités que nous pourrons avoir les programmes de retour de nos joueurs dans leurs clubs. Parce que initialement, comme c'était prévu, à partir de demain soir, les joueurs devaient commencer à retourner à leur base. Mais avec cette situation qui intervient, nous allons essayer de voir rapidement si la situation sécuritaire permet pour confirmer leur retour.
Alors c'est un souci pour la FEGI Foot, mais on le sait, à la mi-journée, les frontières ont été rouvertes. Et les clubs européens, en fait, se mobilisent, Bruno, pour essayer de faire revenir les joueurs. Mmh. Alors, notamment, il y a Naby Keïta, évidemment, la vedette de Liverpool, mais il y a aussi tous ceux qui jouent en France, et notamment le meilleur buteur co-meilleur buteur du moment du championnat de France, le Bayo. Joueur de Clermont, Bayo. Il y a aussi Abdoulaye Sylla de Nantes, Seydou Sow de Saint-Etienne, et puis Florentin Pogba en Ligue 2 de Sochaux, et Issiaga Sylla de Toulouse.
Alors, c'est vrai que là, c'est vraiment un cas à part pour le coup, comparé au Brésil et l'Argentine. Mais moi, je trouve que ça relance un peu la question qui avait été un peu posée par Arsène Wenger. Arsène Wenger, dans sa proposition d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Bon, l'idée des Coupes du Monde tous les 2 ans, je ne suis pas pour du tout. Par contre, la question de réduire les plages à disposition des sélections, au lieu de faire 4-5 rassemblements par an, peut-être n'en faire que 2 plus longs, où effectivement, s'il y a des matchs qui sont reportés, on peut toujours s'arranger sur une plage plus longue. Et avoir un peu plus de temps, parce que là, on voit à chaque fois ça pose des problèmes. Là, c'est des événements assez incroyables, mais il y a eu d'autres problèmes par le passé, des avions ratés, des clubs qui voulaient de moins en moins lâcher leurs joueurs. Ça pose des problèmes maintenant quasiment systématiquement. Donc peut-être il faut commencer à réfléchir, à réorganiser le calendrier, parce que de toute façon, on est en flux tendu sur ce calendrier.
Ils l'ont déjà fait par le passé, les éliminatoires CAN et Coupe du Monde, ils peuvent les fusionner.
Ils peuvent les coupler,
peut peut-être fusionner les éliminatoires Euro et Coupe du Monde en Europe aussi, également.
Bien sûr.
Mais ça, c'est. Oui, voir se servir de la Ligue des Nations.
Mais je vais laisser Dominique juger mes propositions.
Un bilan carbone un peu meilleur en plus.
En plus.
Pardon ?
Ça permettrait un bilan carbone meilleur.
Exactement.
En revanche, pas une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ouais. Qui est alourdirait le bilan carbone.
On rappelle que vous êtes venu en vélo.
C'est vrai ?
Oui, je l'ai vu.
On ne peut rien, vous cacher.
Voilà pour ce qui est. En tout cas, on souhaite à tous ces joueurs de rentrer sans encombre jusqu'à leur club et de reprendre les championnats. Et puis, on suivra effectivement le dossier. Alors, il y a eu ces dernières heures, en début d'après-midi d'ailleurs, des matchs, Nabil. Voyons juste quelques résultats. Ouais. Bon, le Niger contre Djibouti. Alors, Djibouti, rappelons-le, malmené par l'Algérie, ce 8-0 la semaine dernière. Non, mais a expliqué que c'est une équipe en construction, que c'est une toute petite nation et tout.
Après, il faut les mettre, les 8 buts quand même. Mais enfin.
Ils ont été, notamment par Slimani, ils ont été battus tout à l'heure par le Niger 4-2.
Oui, ils menaient à la marque nos amis de Djibouti. Alors, ils ont le mérite de ne pas fermer le jeu. C'est ce qu'ils ont fait face à cette équipe du Niger. Donc, ils ont pris quelques contres. Mais c'est formateur quand même pour eux. Ils ont mis 2 buts. C'est quand même à signaler. C'est pas non plus insignifiant. Oui. Surtout qu'ils menaient à la mi-temps. Donc, il y a des choses à travailler. Oui. Et le match retour, ils peuvent peut-être espérer, pourquoi pas faire un résultat face à cette équipe du Niger. Face au Burkina, face aux Algériens, c'est vrai que la marche était malheureusement un petit peu trop haute pour eux. Mais c'est un bon galop d'essai pour cette équipe.
En tout cas, c'est un peu comme toutes ces nations qu'on voit, les Comores, Madagascar, qui tout d'un coup s'améliorent et on commence à parler d'eux. Nul entre l'Ouganda et le Mali. Peut-être plus embêtant.
Ça, c'est quand même embêtant pour les Maliens. Quand
les
même.
Maliens.
Bah, les Maliens, pour moi, c'est un des outsiders du continent, un des gros outsiders. Alors, je connais pas le classement là, je l'ai pas en tête. Pour être franc avec vous, l'Ouganda, c'est pas une équipe du tout facile à manœuvrer. On l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, notamment face à l'Égypte. On sait que c'est une équipe qui a de la qualité.
Mali est premier de son groupe, le groupe E, avec 4 points, alors que l'Ouganda est deuxième. Les autres sont derrière avec 2 points.
Bon, bah ça va, ils sont en gestion.
Plus gênant, ouais. Peut-être, c'est Bénin-RDC. Le match nul pour la RDC. La RDC 1-1, but d'ailleurs de Mbokani, qui est de retour dans cette équipe.
Deux buts en deux matchs, lui par contre.
Oui. Lui remplit son contrat.
Ouais, mais, oui, effectivement, c'est l'ancien qui donne l'exemple. Bon, c'est une équipe qui a été reprise en main, la RDC. On sait qu'elle ne sera pas présente à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Mm-hmm. Hector Cooper.
Elle a choisi un entraîneur que vous connaissez ici, c'est Cooper. Donc mm-hmm. bon, lui, il te dit de défendre avant de te dire bonjour. Non, mais il y a des entraîneurs comme ça. Hein, c'est. Non, mais
la politesse,
c'est ça.
C'est pas toujours intéressant. Pardon, tu sais, la politesse, c'est pas toujours intéressant. Hein. Défendre, ça peut être intéressant.
On l'a vu avec l'équipe d'Égypte, avec une animation assez restrictive, mais il va peut-être remettre un esprit de groupe. Et surtout, il faut arrêter la RDC avec les groupes élargis. Il faut travailler avec les mêmes joueurs. Arrêter de courir derrière. Les binationaux à droite, à gauche, on se retrouve avec des listes de 45. Ah, bah, il a dit qu'il venait, ah, bah, il vient pas, etc. Finalement, bah, vous avez des valeurs sûres quand même. Mbokani, bah, ça vaut ce que ça vaut. Mais enfin, les deux buts, lui, il les a mis. C'est pas terminé pour la RDC.
Mais elle est deuxième.
Mais elle est deuxième dans un groupe assez homogène avec le Bénin.
Exactement.
Et attention à la Tanzanie, qui est une nation à l'image un peu de Madagascar. Les Comores ou voire d'autres qui progressent depuis pas mal de temps.
Enfin, un petit mot, c'était durant le week-end, le Gabon qui devait pour se rattraper un peu l'emporter face au Pharaon sur sa pelouse à Franceville, rattrapé au score dans les dernières secondes. J'ai l'impression pour les Panthères Patrice Neveu, le Qatar s'est éloigné.
Bah, j'en parlais avec Patrick Juillard avant d'arriver, on discutait un peu de ce match entre l'Égypte et le Gabon. Bah, le Gabon déjà. Ils gèrent mal
un point alors que l'Égypte a 4 points.
Ils gèrent mal un peu leur temps faible et notamment les scénarios des matchs. En Libye, ils mènent. Ils se font reprendre par cette équipe libyenne, notamment sur des buts de la tête où on voit vraiment une désorganisation défensive qu'on a retrouvée. Alors, c'est extraordinaire. Ils mènent 1-0 face à l'Égypte à 11 contre 10. 11 contre 10, c'est-à-dire que normalement, il t'arrive à rien. Les Égyptiens, ils balancent un ballon à Babel Oued. Il y a deux défenseurs gabonais qui vont sur le même attaquant égyptien et qui laissent l'autre tout seul. Déviation de la tête. Et vous avez Mohamed Mostafa, l'ancien du Zamalek et de Galatasaray, qui a failli venir à Bordeaux, qui termine. Donc là, les Gabonais se sont punis, mais tout seuls. Tout seuls. Dans le jeu, ils proposent des choses, ils essayent de jouer. Franchement, il y a de la qualité devant. C'est intéressant, mais leur animation défensive, leur cohésion, leur concentration, elle est loin d'être au très haut niveau. Et vous avez raison, ils sont déjà dans la sauce. Et le Qatar s'éloigne.
Et oui, parce que la Libye a 3 points entre le Gabon et l'Égypte.
Et l'Égypte, attention, c'est pas une grande Égypte. Hein. C'est une Égypte assez, assez minimaliste avec un Salah qui n'a pas fait un énorme match. Hein.
Mais qui était là.
Et qui était là. Mais bon, les Égyptiens, de toute façon, ils vont y aller.
Ouais. Ils veulent y aller, surtout.
Oui.
On verra ces prochains jours les autres matchs parce qu'il y en a chaque jour et à des horaires différents. On continue. On va évoquer les Bleus, nos Bleus à l'âme, on peut dire ça, Dominique Sévrac. Juste avant, un petit hommage quand même, un petit crochet à un Bleu des temps anciens, celui de notre enfance.
Être derrière Jean-Pierre, c'était vraiment un régal parce que les attaquants, quand ils arrivaient à moi, ils étaient dans un drôle d'état parce que Jean-Pierre, c'était un garçon rugueux dans le marquage tout en restant correct. C'était vraiment, vraiment, vraiment fantastique de jouer derrière lui.
Adams. Oh, quel dommage. Adams.
Démarqué là-bas. Beretta, Adams préfère tirer aussi. Beretta sur la gauche là-bas a appelé la balle à l'angle de la surface des 16 mètres. Adams a préféré tirer, il était dans bonne position.
La voix de Marius Trésor qui formait avec Jean-Pierre Adams un tandem absolument extraordinaire. Jean-Pierre Adams s'est éteint aujourd'hui à Nîmes. C'était une vedette dans les années 70 de à la fois le club de Nîmes mais aussi le club de Nice. Il est mort à l'âge de 73 ans, mais si on entend Marius Trésor en parler déjà au passé, Dominique Sévrac, c'est parce que en fait depuis 39 ans, Jean-Pierre Adams s'était plongé dans un coma.
Oui,
dont il ne sera finalement le pauvre jamais sorti depuis 1982.
Il avait ouvert un magasin de sport dans une ville de Saône-et-Loire et c'est là où je suis né. Et donc j'ai grandi avec ses fils, à Jean-Pierre Adams, et donc je connaissais très bien sa famille, sauf sa femme, parce que elle a Bernadette qui a toujours veillé sur lui, qui a toujours pensé qu'un jour il pourrait peut-être se réveiller. Elle disait qu'il comprenait, qu'il entendait en tout cas ce qu'elle disait, ce que les gens lui disaient, mais qu'il ne comprenait pas forcément, et lui ne pouvait pas, il vivait un peu comme un légume sur un lit. Et c'est terrible parce que c'est une force de la nature, c'est un joueur extraordinaire, c'est un défenseur.
Un athlète. C'était un accident. Hein, il devait.
Une séance d'opération, une opération qui a.
Une anesthésie qui a raté, malheureusement, qui a mal tourné. Voilà.
Qui a mal tourné. Et donc moi, je me souviens très bien de ces enfants avec qui j'étais au lycée, qui étaient un peu à la fois des stars, mais des stars malgré elles, parce que on savait que c'était les fils de Jean-Pierre Adams, mais on savait aussi quel drame traversait leur père. Et eux étaient vaillants, ils étaient courageux, et c'est à eux que je pense aussi aujourd'hui, parce que c'est ils ont grandi avec un père dont ils n'ont jamais vraiment pu profiter, quoi.
Une charnière centrale, Nabil, qui était incroyable, Trésor Adams.
Bah, c'est sûr que...
Alors, c'est les années 70, hein, mais c'était l'époque où l'équipe de France commençait justement à s'améliorer, où arriverait Platini, Gérès et tout le monde.
Bah, c'est sûr qu'en termes de puissance athlétique... À ce moment-là, ça devait être hors du commun.
Puis technique aussi.
Trésor avait une grosse qualité de pied.
On se souvient de sa volée contre l'Allemagne. Faut la mettre, hein, sur le corner. Ouais, sur le coup franc de Gérès.
C'était effectivement notre page vintage, mais c'est vrai que c'était un personnage du football, et notamment du football français. Les Bleus donc, ceux d'aujourd'hui, ceux qui nous désolent, leur match nul en Ukraine, samedi soir 1-1, était le cinquième match nul consécutif, le cinquième aussi où l'équipe court après le score. Ce groupe n'a pas gagné, alors ni perdu certes, mais le capitaine Hugo Lloris l'a dit en fin de rencontre, et sans fioritures.
C'est fini, l'euphorie de l'après-Coupe du Monde 2018, où on sentait qu'à tout moment on pouvait faire basculer les résultats en notre faveur. On était sur une vague de réussite et elle s'est un petit peu cassée.
C'est déjà fini, Dominique. Oui. 3 ans, un titre de champion du monde, ça dure 4 ans, et là c'est déjà fini.
Vous savez, on a souvent parlé de l'enchaînement 98-2000, champion du monde, champion d'Europe, et peut-être que cet enchaînement-là, on l'a vécu en 2016-2018 avec une finale de l'Euro et un titre mondial. Et peut-être qu'après, après 98-2000, il y a eu 2002, la défaite contre le Sénégal, premier match contre la Coupe du Monde, un fiasco. Trois meilleurs attaquants, trois meilleurs buteurs en Europe, 0 but inscrit avec Thierry Henry, Djibril Cissé, David Trezeguet. Là, par exemple, il n'y a aucun secteur qui marche. Il n'y a pas d'animation offensive. Et on nous a serinés sur la meilleure attaque du monde avec Benzema, Griezmann, Mbappé. Bon, là, il n'est pas là. Il est forfait depuis le match contre la Bosnie. Il a mal au mollet. Il n'y a pas vraiment de sécurité défensive. Avant, c'était un peu le triomphe des équipes de France sur des socles défensifs.
Ah oui, parce qu'à chaque fois, on prend un but.
Il n'y a pas de cadre collectif qui fait que quand il y a un truc qui va moins bien, bah, vous pouvez vous sauver avec un cadre collectif. Là, il n'y a rien. Il y a un sélectionneur qui est un petit peu aux abonnés absents. Il tente des choses et rien ne marche. Donc il retente, et ce qu'il retente à chaque fois, ça ne marche pas non plus. Donc c'est un peu le brouillard.
Bruno, est-ce qu'il y a des individualités qui interrogent quand même dans cette équipe de France et qui surprennent d'être là ou qui sont finalement, je vais peut-être être méchante, mais un peu des joueurs quelconques qui sont bien, mais qui du coup ne font pas n'allument pas la lumière dans un match, quoi.
Non, ben là pour le coup, c'est un peu la faillite des cadres. C'est ceux qui étaient censés porter un peu cette équipe. Et on a le sentiment qu'ils se sont laissés griser déjà. Ça, c'est sûr depuis la Coupe du Monde 2018. Mais si elle commence quand même à dater maintenant, hein. Ça fait 3 ans.
À la limite, ça serait humain.
Mais on le voit dans ces cadres en fait. Le premier pour moi, c'est Antoine Griezmann, qui était son homme fort à l'Euro 2016, qui était pour moi aussi l'homme fort de la fin de parcours en 2018. Et qui, depuis qu'il a quitté l'Atlético pour le Barça, a perdu son football, il a perdu sa joie de jouer. Avant, l'équipe de France, c'était un peu une bouffée d'oxygène où il retrouvait un peu de la joie. Et puis, plus les mois passaient, plus il amenait ses problèmes en équipe de France. Et là, franchement, il ne met plus un pied devant l'autre. Il a perdu cette joie de jouer. Il s'exile sur le côté droit. On ne sait pas vraiment si c'est voulu par le sélectionneur ou pas. Et il se perd. Et puis, avec lui, il y en a d'autres qui commencent à glisser aussi un peu. On a parlé de la défense. Alors, la défense, il faut reconnaître aussi qu'il manque beaucoup de monde.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont perdu les deux latéraux. Ils ont perdu aussi Umtiti, même si c'est pour les raisons de blessure. Et qu'en fait, on n'a jamais vraiment retrouvé une charnière centrale aussi solide que 2018. Mmh. même s'il y avait des errements.
Et puis Martial, Paul, et puis Paul par
Pogba,
exemple.
Et puis Paul Pogba oui. aussi, mm-hmm. qui est un peu le jour et la nuit. Et à l'Euro,
c'est un peu l'histoire de sa carrière.
Bah, il est en fantastique plus, avec le ballon, mais il est dramatique sans le ballon.
Exactement.
Et à l'Euro, sauf en 2018, ça. Où il avait sacrifié son talent pour le collectif.
Mais parce qu'il était peut-être mieux entouré aussi.
Mais cet esprit-là, il faut le retrouver. Et peut-être que, vous savez, au bout d'un moment, faire des efforts... Toujours faire des efforts quand vous êtes un joueur de ballon, bah à un moment, naturellement, vous en avez marre.
Mais imagine le signe que tu renvoies aux autres. T'es fantastique avec le ballon, mais t'es dramatique sans le ballon. Tu fais aucun effort.
Oui, tu sais comment les autres Dominique, se disent
bon bah alors si Paul Pogba, il s'en fiche. Bon bah nous on s'en fiche.
Paul Pogba, c'est l'histoire de sa carrière. C'est 6, 8 ou 10 quoi. Et lui, il se voit comme un 10, mais c'est pas un 10, c'est un 8. Et puis Deschamps a réussi l'exploit de le transformer en 6.
Et puis sa carrière en club, ça donne l'impression un peu d'un intermittent du spectacle qui fait pas toujours les efforts. En tout cas, sur les périodes.
C'est pas le plus mauvais quand même, là.
Non, mais sur une période courte, comme en 2018, il a été fort, mais on le voit en sa carrière en club depuis qu'il arrive à Manchester. C'est par coup, c'est par éclat, même s'il allait mieux effectivement depuis 6 mois à Manchester.
Oui, en plus, ses états d'âme. Hein, on se souvient ses problèmes avec José Mourinho et tout. Mais par exemple, Martial aussi.
Pogba, moi je trouve que c'est le symbole de cette transition ratée. Qui a été voulu par nous aussi médias, par les spectateurs, d'avoir une équipe qui était trop défensive, on râlait un peu, champion du monde, mais trop défensif, et on voulait une équipe qui attaquait.
Bah, on espérait une progression en fait, dans le jeu, non ?
Oui,
il a pris Benzema en pensant que ça allait se faire tout
ça
seul.
Ça allait irradier.
Sauf qu'il faut une réflexion sportive en amont. Déjà, peut-être fallait le faire venir avant, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est pas parce que tu prends Benzema que subitement. Tu vas perdre tes habitudes et ton équipe va changer de logiciel de jeu. Ça se travaille, tout ça.
Bien sûr.
Donc, pour moi, il y a une double.
Et c'est vrai aussi que les équipes nationales ont peu de temps.
Exactement.
Mais il y en a qui arrivent.
À part 20 minutes contre la Suisse, on n'a rien vu de ces trois joueurs-là, de cette attaque Griezmann, Mbappé.
Un peu contre l'Allemagne, mais c'était trop famélique.
On a eu un mal fou à mettre des buts, à part les trois contre la Suisse, mais. C'est pas normal que Benzema et Mbappé qui vont finir par jouer ensemble, c'est pas un scoop, et ça va se faire dès 2022.
Ça, c'est un scoop quand même. Qu'ils finissent par le faire.
C'est quand même, entre guillemets, c'est simple. Vous avez Mbappé et Benzema, vous les mettez les plus près du but possible. Et après, vous organisez votre équipe.
Et après, vous dites à Griezmann d'aller sur le banc. C'est ça, Dominique? Assumez votre position, Dominique. Dites-le. Faut-il sortir Antoine Griezmann?
Nabil ne peut pas jouer sur un côté. Antoine Griezmann va faire un petit tour sur le banc.
Et puis, à un moment donné, il est pas bon.
C'est aussi un choix de franchise. Moi, j'ai rien à dire.
Et à un moment donné.
Mais c'est la question, en fait. C'est la question des choix forts.
Moi, je pense qu'il peut jouer en 10 derrière les deux. Mais bon.
Moi aussi, je suis comme toi.
Je vous propose d'écouter le sélectionneur. Parce que comment faut-il arrêter cette spirale négative? Alors, évidemment, ça peut venir des joueurs. Mais ça peut aussi venir du sélectionneur. Et Didier Deschamps, morceau choisi par David Finzel de ce sélectionneur après match. Et vous allez l'entendre, on se pose des questions en l'écoutant.
C'est une période plus difficile. Si vous prenez les 11 titulaires de 2018, il y en a 3 ce soir. Hein. Il y a Hugo, il y a Paul et Antoine. Ben voilà, ce qui n'empêche pas, il y a des jeunes comme Aurélien et d'autres qui viennent dans une situation évidemment où ça nous sourit moins. On est bien obligé de l'accepter, mais surtout inverser la tendance. Il y a des périodes.
Comment vous allez faire ?
Je ne suis pas un magicien, mais c'est déjà y mettre plus que ce qu'on a mis. Peu importe. Après, les systèmes, ça reste ce qu'ils sont. Voilà, on tombe sur des adversaires, bien évidemment, qui sont surmotivés, mais ça, on le sait, la qualité, elle est là. Mais en plus de la qualité, c'est en faire plus. Ce n'est pas regarder derrière, c'est ce qui nous attend, déjà mardi.
Alors, effectivement, il a raison de le rappeler, il n'y a que 3 champions du monde sur le 11 de départ, c'est quand même important. Mais, il dit « je ne suis pas magicien ». Et là, on se dit, Didier Deschamps, on croyait qu'il avait la solution et qu'il avait même de la chance.
C'est pas très bon signe quand vous commencez à dire « je ne suis pas magicien, je n'ai pas les solutions ». Etc. Ça veut pas dire que vous vous défaussez, mais ça veut dire qu'en gros.
Je cherche beaucoup d'excuses, quoi.
Voilà, oui, on est tombé dans la culture de l'excuse. Moi, ça me fait penser à Hervé Renard, quand il était à la tête de Lille. Au bout d'un moment, il y avait une conférence de presse qu'il avait terminée parce qu'il avait dit, je n'ai pas de solution. Quand un sélectionneur ou un entraîneur, ce qui veut pas dire que ses compétences sont remises en cause, mais enfin, sur le momentum, ça veut dire qu'il est quand même en perte de vitesse, clairement. Il rappelle qu'il y a que 3 joueurs qui sont présents, qui étaient à la dernière Coupe du Monde. Mais moi, je rappelle quand même que les joueurs qui sont autour, c'est des joueurs qui sont dans les top clubs. Je veux dire, il n'y a pas l'effectif de Gibraltar. Non, mais il y a un moment,
qu'il y a un arrière-droit très bon à Gibraltar.
Je suis moins d'accord là-dessus, parce qu'il a quand même joué avec un mec d'Everton, un défenseur de West Ham, un milieu de terrain de Monaco. C'est plus les top clubs.
C'est bien.
Je parle en termes d'expérience et il y a quand même un déclassement des joueurs d'équipe de France depuis 3 ans. Avant, ils étaient dans les top clubs. C'était le Bayern,
Il n'y a pas de plan B. Son plan A, c'était la contre-attaque en Coupe du Monde. Voilà.
Mais je suis d'accord là-dessus.
Il n'a jamais inventé un plan B. Et donc,
Mais peut-être qu'il peut pas. Peut-être que Deschamps, dans son logiciel, c'est pas possible. Peut-être qu'il s'est laissé griser et qu'il a laissé un peu.
Non, mais il pensait que Benzema allait régler le truc devant tout seul.
Ouais, mais alors ça, c'est naïf. Si vraiment il pensait. Moi, j'ai du mal à croire.
Moi, c'est comme ça que le plan B, c'est B comme Benzema.
J'ai du mal à croire que Deschamps soit aussi naïf que ça. Après, il y a un pilier qui s'effrite. C'est, pour moi, le problème, il vient pas de devant.
Sans mayonnaise.
Il vient de derrière. La force de l'équipe de France, c'était aussi sa solidité, c'était son organisation.
C'était la défense.
Il y a les trois quarts de la défense qui sont absentes aujourd'hui.
Oui, aussi. Plus, il y a les Pavard, plus N'Golo Kanté. Il y a Hernandez, et il ne fait pas jouer Théo Hernandez, qui était dans une bonne phase.
On a Pascal Kimpembe qui ne fait pas des grandes prestations en équipe de France, qui a atteint une sorte de. Pascal Kimpembe, c'est un bon joueur, mais il n'ira jamais plus loin.
Il y aura toujours ses erreurs.
Tu vois, il a atteint son plafond de verre.
Mais ça, plus Lucas Hernandez, qui a porté vraiment un truc qu'on n'avait pas en équipe de France, qui avait vraiment du caractère.
Lucadine,
mais Théo Hernandez aussi, ce le serait peut-être.
Si Lucadine c'était un grand défenseur, il serait pas Everton. Bruno, il aurait réussi au Barça.
Il a fait des clubs.
Il a fait le Barça.
Il était sur le banc.
Il a fait le PSG, il a fait le Barça. Il a fait la S Roma. C'est des bons clubs, ça.
Ouais, il a de la chance d'être à la tête de l'équipe de France parce qu'on a un réservoir de joueurs exceptionnels qui vous garantissent toujours un service minimum. Même quand on n'est pas bon, on va faire match nul. Moi, je partage pas l'avis totalement des grands clubs parce que l'Italie, le Danemark à l'Euro, ils jouent tous au Bayern. Ils étaient demi-finalistes.
Parce que c'est un entraîneur qui a un vrai logiciel de jeu.
Parce
que c'est le vivier dont on parle sans arrêt en France. Il est où le vivier, franchement?
C'est parce que
l'équipe de France Espoir, elle a fait quoi comme résultat? Martial, il a fait quoi comme performance en équipe de France? Coman, à chaque fois qu'il joue, est-ce qu'il brille à chaque fois, il est buteur
en finale de la Ligue des Champions avec le Bayern. Et
Avec le Bayern. Mais en équipe de France.
En équipe de France, le problème, c'est pas les joueurs, Annie, c'est le logiciel.
On empile les joueurs,
on les met même pas à leur place, on leur dit jouer.
Dominique, est-ce que finalement cette équipe de France, ce qui arrive à Didier Deschamps, vous, peut-être, je ne sais pas si vous y pensez aussi, mais on pense un peu à Joachim Löw.
L'usure, ça fait 9 ans qu'il est sélectionneur, il est arrivé en 2012.
Joachim Löw est resté 15 ans.
Ouais, il a fait 2 ans à Jürgen Klinsmann, puis après il a pris la tête tout seul, et on s'aperçoit avec, mais c'est toujours facile, on est toujours plus intelligent après qu'avant, qu'il a fait un euro de trop, Joachim Löw.
Mais c'est surtout, pas forcément sur le personnage qui n'est plus d'idée tout, mais on en parle souvent. L'usure, et puis le fait d'être. Le lien avec les joueurs, on en parle souvent, c'est-à-dire par exemple ceux de 2018, ils sont devenus champions du monde, c'est des stars dans leur club, et je pense à Mbappé, mais c'est pas le seul. Et du coup, on se demande si...
Vous avez raison, Annie, c'est dans le management de ce que j'ai vu à l'Euro, j'ai vu un effritement, j'ai vu Paul Pogba venir pas en France-Suisse.
On l'a tous vu.
Ça ne va pas, j'ai vu Kingsley Coman refuser de sortir alors que son sélectionneur lui dit faut sortir. Ça, c'est des choses de ce que vous dites du management, de l'effritement dans la relation d'autorité entre un patron, un sélectionneur et une équipe, je vois qu'aujourd'hui, il ne l'écoute plus, il l'écoute moins. Et je me dis que après 9 ans, c'est normal.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu.
Dans
c'est
un
que
couple,
les résultats.
Au bout de 9 ans, on s'écoute moins, on se parle moins. Donc, c'est un couple qui traverse une crise et peut-être qu'il se sépare, mais peut-être que c'est trop tôt. C'est compliqué. On ne sait jamais quand est-ce qu'il faut se séparer avec les gens.
Après, il y a une piste aussi de réflexion. Et moi, ce qui me fait penser à Guardiola et Alex Ferguson, ils expliquaient qu'ils avaient besoin de changer d'adjoint aussi, pour que cet adjoint il amène des idées nouvelles. Deschamps, il est avec Guy Stéphane depuis le début.
Depuis Marseille
en plus. Depuis
malheureusement, on a vu à Marseille, il y a pas un renouvellement des idées. Ça s'était effrité aussi. Après le titre.
Non, mais Annie.
Mais un club, c'est beaucoup plus usant. Et Marseille, c'est une décision. L'équipe de France, c'est un rassemblement tous les mois. Normalement, c'était peinard, en fait. Il arrivait à l'Euro, il était favori, il l'assumait. Normalement, il ne devait pas y avoir de problème. Et tout s'est effondré. Contre la Hongrie, contre le Portugal et avec le point final contre la Suisse.
Et puis la sortie, tu parlais de la culture de la contestation, les déclarations qu'il n'y avait jamais en conférence de presse, Giroud qui dit ce qu'il pense. Bon, après, sur le fond, on peut être en partie d'accord avec lui, mais sur la forme, au grand jamais, il aurait fait ça en 2018 ou à un autre moment de sa séquence avec l'équipe de France. Mais on est rattrapé par une chose, la culture du résultat, la culture de la gagne. Bah, le jour où ça ne gagne plus, vous n'avez pas le jeu qui est là pour venir éventuellement pallier. Certaines déficiences conjoncturelles, on va dire. Voilà, son plan, c'est on attend, on se projette. Ça marchait très bien en 2018 et bravo à lui parce qu'il a trouvé la bonne formule. Aujourd'hui, tout le monde se met dans son fauteuil, se met en ligne de 5 et vous attend. Au lieu de mettre Coman titulaire et de mettre un latéral offensif derrière lui, non. il met Tolisso à droite et puis met un défenseur central derrière lui.
Koundé qui n'est jamais à son poste.
Voilà, non, mais... Après, il y a juste moi, un tout petit bémol quand même. On est quand même en phase de reprise et on l'oublie. Et quand on regarde les autres nations, l'Italie, elle est chez les deux champions d'Europe en titre.
C'est vrai.
L'Espagne a été battue en Suède. Le Portugal a battu l'extrémiste l'Irlande.
Oui, et l'Allemagne, elle s'est.
Difficulté ailleurs. Hein.
L'Allemagne s'est déchaînée, mais c'était contre la pauvre Arménie.
Mais tu ne sens pas un rebond depuis l'Euro quand même.
Non, et surtout, un rebond sur le terrain, on n'arrive pas à le voir. Dans les têtes
et les gars ne sont pas heureux, c'est ça qui est le plus inquiétant.
C'est la sensation que ça donne.
Très heureux.
Très heureux d'être en face de Las Vegas. Et d'un professionnel à ma gauche.
On était.
Je continue ou pas?
Il a bien appris.
Aucune peur sur la ville avec vous, Alice.
Et moi, je suis la femme de Rio. Bon. Peut-être.
Oh, oh là là.
Allez. Bébel, hein, Belmondo, ouais. Pour ne pas le citer. Un petit crochet, justement, par
Bébel la vie.
Si ferma Bruma, in mezzo va a cercare un compagno, arriva André Silva sul sinistro. Bruma che ha potuto puntare con decisione verso Donnarumma, poi ha scelto il passaggio per André Silva.
Alors, ce que vous entendez commenté par nos confrères italiens, c'était en 2018, la dernière défaite en date de la Squadra Azzurra. Depuis, eh bien, cette équipe d'Italie ne perd plus aucun de ses matchs. Là, c'était en Ligue des Nations et c'était face au Portugal. Et on se souvient, le Portugal l'avait remporté, cette première Ligue des Nations. Hier soir, elle a battu un record établi par les Espagnols et les Brésiliens de 35 matchs sans défaite. Bruno Constant, est-ce que c'est ce qu'il faut retenir de la prestation, parce que c'était un match nul, on va y venir après, c'était face aux Suisses et Dieu sait que on les connaît, les Helvètes, hein, on en a un mauvais souvenir hier soir, d'avoir tenu ce record, de l'avoir battu.
Bah, c'est surtout pas anecdotique, parce que ce genre de série, ça prouve que ça dégage une force dans cette équipe. La construction de Roberto Mancini, ou la reconstruction de Roberto Mancini, a porté ses fruits, il a instauré quelque chose qui est assez fort dans cette équipe. Qu'on avait vu un peu de loin, on regardait un peu avec les yeux, on se méfiait, mais sans trop, parce qu'ils n'avaient pas des gros adversaires. Et puis on a vu, ça s'est confirmé sur 7 euros, ils ont été au bout, parfois en tremblant, parfois avec des difficultés, parfois en souffrant dans certains matchs. Et c'est pour ça que ce qui se passe au lendemain de l'Euro, bah, ça correspond un peu à ça, c'est que c'est pas une équipe qui survole tous ses matchs, de toute façon, hein. Mais c'est une équipe qui apprend à souffrir, qui a appris à souffrir et qui est devenue hyper solide. Et ça, c'est uniquement le travail de Roberto Mancini.
Alors quand même, ils se compliquent un peu la tâche. Ils sont premiers de leur groupe C avec 4 points d'avance sur la Suisse. Mais la Suisse, truc dingue, a 2 matchs en moins. Et là-bas, et je peux citer un certain Matteo Cioffi, on commence à trembler parce qu'on se dit « Ah non, pas encore les barrages
bah, !» Moi, j'ai vu le match contre la Bulgarie, un petit peu contre la Suisse. Contrairement à l'équipe de France, elle a un cadre collectif, l'Italie. Au moins, hier, Verratti n'était pas là, c'était Locatelli. On sait exactement comment ils jouent. Voilà,
ils savent comment jouer.
On peut remplacer quelqu'un et on ne dit pas, tiens, il manque Marco Verratti, comment on va faire? Bon, c'est des éliminatoires. Tout le monde n'est pas au même nombre de matchs. Bruno l'a dit, on est aussi dans une phase de reprise. Eux, ils ont quand même vécu une acmé le 11 juillet. Ils étaient champions d'Europe. Voilà, Donnarumma, par exemple, c'est ses deux premiers matchs de la saison. On va leur donner le crédit d'attendre la prochaine séquence internationale pour voir s'il faut s'inquiéter. Moi, je me dis que non. Après, les limites de l'Italie, on les connaît. Par exemple, ils ont 3 attaquants qui ne sont pas vraiment 3 attaquants. Ce n'est pas des grands attaquants internationaux. J'ai l'impression de voir 3 attaquants de Ligue 1, Immobile, Insigne, à part Chiesa,
qui est extraordinaire.
Mais Insigne, Immobile, bon...
Insigne, ça va, Immobile, un peu moins. Insigne, ça va quand même...
Insigne, ça va, mais le nombre de corners qui tirent n'importe comment, c'est fou.
Très intéressant. Immobile, c'est vrai que c'est un peu juste, quoi.
Bon, ben on y reviendra en tout cas à cette Italie qui inquiète un peu ses supporters. Eux, ils rêvent de Qatar 2022 vu qu'ils ont été privés de Russie 2018. Hein. C'est inquiétant. C'est la fin déjà, messieurs, de ce Radio Foot International, mais on a fait notre tour d'horizon et Dieu sait qu'il était vaste. Nous nous sommes baladés un peu partout. Mais
les bout de souffle.
Je vous laisse le dernier mot, Dominique. Merci à tous et à demain. Demain sur...